Chapitre 14 de la guerre, combat, hardiesse et armes des sauvages. Combien que nos Touyoupinambous, Toupinanquins, suivant la coutume de tous les autres sauvages qui habitent cette quatrième partie du monde, laquelle en latitude depuis le détroit de Magellan qui demeure par les 50 degrés tirant au pôle antarctique jusqu'aux Terre-Neuve, qui sont environ les 60 au-deçà du côté de notre Arctique, contient plus de 2000 lieues, ayant guerre mortelle contre plusieurs nations de ce pays-là, tant il y a que leurs plus prochains et capitaux ennemis sont tant ceux qu'ils nomment Margaïa que les Portugais, qu'ils appellent Perros, leurs alliés, comme au réciproque les dits Margaïa n'en veulent pas seulement aux Toupinambous, mais aussi aux Français, leurs confédérés. Non pas, quant à ces barbares, qu'ils se fassent la guerre pour conquérir les pays et terres les uns des autres, car chacun en a plus qu'il ne lui en faut. Moins que les vainqueurs prétendent s'enrichir des dépouilles, rançons et armes des vaincus. Ce n'est pas, dis-je, tout cela qui les mène. Car comme eux-mêmes confessent, n'étant poussés d'autre affection que de venger chacun de son côté, ses parents et amis, lesquels, par le passé, ont été pris et mangés à la façon que je dirai au chapitre suivant, ils sont tellement acharnés les uns à l'encontre des autres que quiconque tombe en la main de son ennemi, il faut que sans autre composition, ils s'attendent d'être traités de même, c'est-à-dire assommés et mangés. Davantage, sitôt que la guerre est une fois déclarée entre quelques-unes de ces nations, tous alléguant qu'attendu que l'ennemi qui a reçu l'injure s'en ressentira à jamais, c'est trop lâchement fait de le laisser échapper quand on le tient à sa merci. Leurs haines sont tellement invétérées qu'ils demeurent perpétuellement irréconciliables. Sur quoi on peut dire que Machiavel et ses disciples, desquels la France a son malheur maintenant est remplie, sont vrais imitateurs des cruautés barbaresques. Car puisque contre la doctrine chrétienne, ces athéistes enseignent et pratiquent aussi que les nouveaux services ne doivent jamais faire oublier les vieilles injures, c'est-à-dire que les hommes, tenant du naturel du diable, ne doivent point pardonner les uns aux autres, ne montrent-ils pas bien que leurs cœurs sont plus félons et malins que ceux des tigres mêmes? Or, selon que j'ai vu, la manière que nos Touyoupinambous tiennent pour s'assembler afin d'aller en guerre est telle. C'est combien qu'il n'est entre eux ni roi, ni prince, et par conséquent qu'ils soient presque aussi grands seigneurs les uns que les autres, néanmoins, nature leur ayant appris, ce qui était aussi exactement observé entre les lacédémoniens, que les vieillards, qui sont par eux appelés peoreru piche, à cause de l'expérience du passé, doivent être respectés, étant en aucun village assez bien obéis, quand l'occasion se présente, eux, se promenant ou étant assis dans leur lit de coton pendus en l'air, exhortant les autres de telle ou semblable façon. « Et comment » diront-ils, parlant l'un après l'autre sans s'interrompre d'un seul mot, « nos prédécesseurs, lesquels non seulement ont si vaillamment combattu, mais aussi vaillamment subjugué, tué et mangé tant d'ennemis, nous ont-ils laissé exemple que comme efféminés et lâches de cœur, nous demeurions toujours à la maison ?» Faudra-t-il qu'à notre grande honte et confusion, au lieu que par le passé notre nation a été tellement crainte et redoutée de toutes les autres qu'elles n'ont pu subsister devant elle, nos ennemis ayant maintenant l'honneur de nous venir chercher jusqu'au foyer? Notre couardise donnera-t-elle occasion aux Margaïa et aux Perros-Angaipa, c'est-à-dire à ceux de ces deux nations alliées qui ne valent rien, de se ruer sur nous? Puis celui qui tient tel propos, claquant des mains sur ses épaules et sur ses fesses, avec exclamation, ajoutera « Erima, Erima, Touyoupinambou, Konomi Wasu Tantan, etc. » C'est-à-dire « Non, non, gens de ma nation, puissants et très forts jeunes hommes, ce n'est pas ainsi qu'il nous faut faire. Plutôt, nous disposons de les aller trouver, faut-il que nous fassions tous tuer et manger, ou que nous ayons vengeance des nôtres ?» Après que ces harangues des vieillards, lesquelles durent quelquefois plus de 6 heures, sont finies, Chacun des auditeurs, qui en écoutant attentivement n'en aura pas perdu un mot, se sentant encouragé et avoir, comme on dit, le cœur au ventre, en avertissant de village en village, ne faudront point de s'assembler en diligence et de se trouver en grand nombre au lieu qui leur sera assigné. Mais avant que faire marcher nos touyoupinambous en bataille, il faut savoir quelles sont leurs armes. Ils ont premièrement leur takap, c'est-à-dire épée ou massue, faites les unes de bois rouge et les autres de bois noir, ordinairement longues de 5 à 6 pieds, et quant à leur façon, elles ont un rond ou ovale au bout d'environ 2 paumes de main de largeur, lequel, épais qu'il est de plus d'un pouce par le milieu, est si bien menuisé par les bords que cela, étant de bois dur et pesant comme buis, tranchant presque comme une cognée, j'ai opinion que deux des plus accortes spadassins de par de ça se trouveraient bien empêchés d'avoir affaire à un de nos touyoupinambous étant en furie s'il en avait une au poing. Secondement, ils ont des arcs, qu'ils nomment orapas, faits des sudits bois noirs étranges, lesquels sont tellement plus longs et plus forts que ceux que nous avons par de ça, que tant s'en faut qu'un homme d'entre nous le pût enfoncer, moins en tirer, qu'au contraire, ce serait tout ce qu'il pourrait faire d'un de ceux des garçons de 9 ou 10 ans de ce pays-là. Les cordes de ces arcs sont faites d'une herbe que les sauvages appellent tocon, lesquelles, bien qu'elles soient fort déliées, sont néanmoins si fortes qu'un cheval y tirerait. Quant à leurs flèches, elles ont environ une brasse de longueur et sont faites de 3 pièces, à savoir le milieu de roseau et les 2 autres parties de bois noir, et ce sont pièces si bien rapportées, jointes et liées avec de petites pelures d'arbres, qu'il n'est pas possible de les mieux agencer. Au reste, elles n'ont que 2 empennes, chacune d'un pied de long, lesquelles, parce qu'ils n'usent point de colle, sont aussi fort proprement liées et accommodées avec du fil de coton. Au bout d'iselle, ils mettent aux unes des os pointus, aux autres la longueur de 2 demi-pieds de bois de canne sèche et dure, faite en façon de lancette et piquant de même. Et quelquefois, le bout d'une queue de raie, laquelle, comme j'ai dit quelque part, est fort venimeuse. Même depuis que les Français et Portugais ont fréquenté ce pays-là, les sauvages à leur imitation commencent d'y mettre, sinon un fer de flèche, pour le moins au défaut, dit celui, une pointe de clou. J'ai déjà dit comment ils manient dextrement leurs épées. Mais quant à l'arc, ceux qui les ont vus en besogne diront avec moi que, sans aucun brassard, mais tout nus qu'ils sont, ils les enfoncent et tirent si droit et si soudain que n'en déplaise aux Anglais, estimés néanmoins si bons archers, nos sauvages, tenant leur trousseau de flèches en la main de quoi ils tiennent l'arc, en auront plutôt envoyé 12 qu'eux en auront décoché 6. Finalement, ils ont leurs rondelles, faites du dos et du plus épais cuir sec de cet animal qu'ils nomment tapiroussou, dont j'ai parlé ci-dessus. Et ce sont de façon large, plates et rondes, comme le fond d'un tabourin d'allemand. Vrai est que quand ils viennent aux mains, ils ne s'en couvrent pas comme font nos soldats de par-de-ça des leurs, mais seulement leur servent pour, en combattant, soutenir les coups de flèche de leurs ennemis. C'est en somme ce que nos Américains ont pour toute arme, car au demeurant, tant s'en faut qu'ils se couvrent le corps de choses quelles qu'elles soient, qu'au contraire, hormis les bonnets, bracelets et courts habillements de plumes, de quoi j'ai dit qu'ils se parent le corps, s'ils avaient seulement vêtu une chemise quand ils vont au combat, estimant que cela les empêcherait de se bien manier, ils la dépouilleraient. Et afin que je parachève ce qu'il est à dire sur ce propos, si nous leur baillions des épées tranchantes comme je fis présent d'une des miennes à un bon vieillard, incontinent qu'ils les avaient, jetant les fourreaux comme ils font aussi les gaines des couteaux qu'on leur baille, ils prennent plus de plaisir à les voir tréluire du commencement ou d'en couper des branches de bois qu'ils ne les estimaient propres pour combattre. Et à la vérité aussi, selon que j'ai dit qu'ils savent tant bien manier les leurs, elles sont plus dangereuses dans leurs mains. Au surplus, nous autres, ayant aussi porté par-delà quelques nombres d'arquebuses de léger prix pour trafiquer avec ces sauvages, j'en ai vu qui s'en savaient si bien aider qu'étant 3 à en tirer une, l'un la tenait, l'autre prenait visée et l'autre mettait le feu, et au reste, parce qu'ils chargeaient et remplissaient le canon jusqu'au bout, n'eût été qu'au lieu de prendre feu, nous leur baillions moitié de charbon broyé, il est certain qu'en danger de se tuer, tout fut crevé entre leurs mains. À quoi j'ajoute qu'encore que du commencement qu'ils oyaient les sons de notre artillerie et les coups d'arquebuse que nous tirions, ils s'en étonnassent aucunement, même voyant qu'aucun de nous en leur présence abattait un oiseau de dessus un arbre ou une bête sauvage au milieu des champs, parce principalement qu'ils ne voyaient pas sortir ni en aller la balle, cela les ébahit bien fort. Tant il y a néanmoins qu'ayant connu l'artifice et disant, comme il est vrai, qu'avec leurs arcs ils auront plutôt délâché 5 ou 6 flèches qu'on aura chargées et tiré un seul coup d'arquebuse, ils commençaient de s'assurer à l'encontre. Que si on dit là-dessus, voir, mais l'arquebuse fait bien plus grand fauché, je réponds à cette objection que quelques collets de buffle, voire cottes de maille ou autres armes qu'on puisse avoir, sinon qu'elles fussent à l'épreuve, que nos sauvages, forts et robustes qu'ils sont, tirent si roidement qu'aussi bien transperceront-ils le corps d'un homme d'un coup de flèche qu'un autre fera d'une arquebusade. Mais parce qu'il eût été plus à propos de toucher ce point qu'en si après je parlerai de leur combat, afin de ne confondre les matières plus avant, je vais mettre nos touilloupinambous en campagne pour marcher contre leurs ennemis. Étant donc, par le moyen que vous avez entendu, assemblés en nombre quelquefois de 8 ou 10 000 hommes, et même que beaucoup de femmes, non pas pour combattre, mais seulement pour porter des lits de coton, farines et autres vivres, se trouvent avec les hommes, après que les vieillards qui par le passé ont le plus tué et mangé d'ennemis ont été créés chefs et conducteurs par les autres, tous, sous leur conduite, se mettent ainsi en chemin. Et combien qu'en marchant ils ne tiennent ni rang ni ordre, si est-ce toutefois que s'ils vont par terre, outre que les plus vaillants font toujours la pointe et qu'ils marchent tous serrés, encore est-ce une chose presque incroyable de voir une telle multitude, laquelle, sans maréchal de camp, ni autre qui pour le général ordonne des logis, se serait si bien accommodé que sans confusion, au premier signal, vous les verriez toujours prêts à marcher. Au surplus, tant aux délogés de leur pays qu'au départir de chacun lieu où ils s'arrêtent et séjournent, afin d'avertir et tenir les autres en cervelle, il y en a toujours quelques-uns qui, avec des cornets qu'ils nomment Zinoubia, de la grosseur et longueur d'une demi-pique, mais par le bout d'en bas large d'environ 2 pieds comme un hautbois, sonnent au milieu des troupes. Même aucuns ont des fifres et flûtes faites des os, des bras et des cuisses de ceux qui auparavant ont été par eux tués et mangés, desquels, semblablement, pour s'inciter tant plus d'en faire autant à ceux contre lesquels ils s'acheminent, ils ne cessent de flageoler par les chemins. Que s'ils se mettent par haut, ce qu'ils font souvent, côtoyant toujours la terre et ne se jetant guère avant en mer, ils se rangent dans leurs barques qu'ils appellent igates, lesquelles, faites chacune d'une seule écorce d'arbre qu'ils pèlent expressément du haut en bas pour cet effet, sont néanmoins si grandes que 40 ou 50 personnes peuvent tenir dans l'une d'elles. Ainsi voguant, tout debout à leur mode, avec un aviron plat par les deux bouts lequel ils tiennent par le milieu, ces barques, plates qu'elles sont, n'enfonçant pas dans l'eau plus avant que ferait un nez, sont fort aisées à conduire et à manier. Vrai qu'elles ne sauraient endurer la mer un peu haute et émue, moins la tourmente. Mais quand en temps de calme nos sauvages vont en guerre, vous en verrez quelquefois plus de 60 toutes d'une flotte, lesquelles, se suivant près après, vont si vite qu'on les a incontinent perdues de vue. Voilà donc les armées terrestres et navales de nos touilloupinambous aux champs et en mer. Or, allant ainsi ordinairement 25 ou 30 lieues loin chercher leurs ennemis, quand ils approchent de leur pays, voici les premières ruses et stratagèmes de guerre dont ils usent pour les attraper. Les plus habiles et les plus vaillants, laissant les autres avec les femmes à une journée ou deux en arrière, eux approchant le plus secrètement qu'ils peuvent pour s'embusquer dans les bois, sont si affectionnés à surprendre leurs ennemis qu'ils demeureront ainsi, tapis, telle fois sera plus de 24 heures. tellement que si les autres sont prises au dépourvu, tout ce qui sera empoigné, soit homme, femme ou enfant, non seulement sera emmené, mais aussi quand ils seront de retour en leur pays, tous seront assommés, puis mis par pièces sur le boucan, et finalement mangés. Et leur sont telles surprises plus aisées à faire, qu'outre que les villages, car de villes ils n'en ont point, ne ferment pas, encore n'ont-ils autre porte en leur maison, longue cependant pour la plupart de 80 à 100 pas et percée en plusieurs endroits, sinon qu'ils mettent quelques branches de palmiers ou de cette grande herbe nommée pinda au-devant de leur huis. Bien est vrai qu'à l'entour de quelques villages frontiers des ennemis, les mieux aguerris plantent des pots de palmiers de 5 ou 6 pieds de haut. Et encore, sur les advenus de chemins en tournoyant, ils fichent des chevilles pointues à fleur de terre. Tellement que, si les assaillants pensent entrer de nuit, comme c'est leur coutume, ceux de dedans, qui savent les détroits par où ils peuvent aller sans s'offenser, sortant dessus, les rembarrent de telle façon que soit qu'ils veulent fuir ou combattre, parce qu'ils se piquent bien fort les pieds, il en demeure toujours quelques-uns sur la place, desquels les autres font des carbonades. Que si au reste, les ennemis sont avertis les uns des autres, les deux armées venant à se rencontrer, on ne pourrait croire combien le combat est cruel et terrible. De quoi, ayant moi-même été spectateur, je puis parler à la vérité. Car, comme un autre Français et moi, en danger si nous eussions été pris ou tués sur le champ d'être mangés des margaillas, fûmes une fois, par curiosité, accompagner nos sauvages, lors en nombre d'environ 4000 hommes, en une escarmouche qui se fit sur le rivage de la mer, nous vîmes ces barbares combattre de telle furie que gens forcenés et hors du sens ne sauraient p'y faire. Premièrement, quand nos Touyoupinambous d'environ demi-quart de lieue eurent aperçu leurs ennemis, ils se prirent à hurler de telle façon que non seulement ceux qui vont à la chasse aux loups par de ça en comparaison ne mènent point tant de bruit, mais aussi pour certains, l'air fendant de leurs cris et de leurs voix, quand il eut tonné du ciel, nous ne l'eussions pas entendu. Et au surplus, à mesure qu'ils approchaient, redoublant leurs cris, sonnant de leurs cornets et en étendant le bras, se menaçant et montrant les uns aux autres les os des prisonniers qui avaient été mangés, voir les dents effilées dont aucun avait plus de deux brasses pendues à leur col, c'était une horreur de voir leur contenance. Mais au joindre, ce fut bien encore le pis, car, sitôt qu'ils furent à 200 ou 300 pas l'un de l'autre, se saluant à grands coups de flèche, dès le commencement de cette escarmouche, vous en eussiez vu une infinité voler en l'air aussi dru que mouche, que si quelques-uns en étaient atteints, comme furent plusieurs, après qu'avec un merveilleux courage ils les avaient arrachés de leur corps, les rompant et comme chiens enragés mordant les pièces à belles dents, ils ne laissaient pas pour cela de retourner tout navrés au combat. Sur quoi faut noter que ces Américains sont si acharnés en leur guerre que tant qu'ils peuvent remuer bras et jambes, sans reculer ni tourner le dos, ils combattent incessamment. Finalement, quand ils furent mêlés, ce fut avec leurs épées et massues de bois, à grands coups et à deux mains, à se charger de telle façon que qui rencontrait sur la tête de ses ennemis, il ne l'envoyait pas seulement par terre, mais l'assommer, comme font les bouchers les bœufs par de ça. Je ne touche point s'ils étaient bien ou mal montés, car présupposant par ce que j'ai dit ci-dessus, que chacun se ressouviendra qu'ils n'ont ni chevaux ni autre monture en leur pays, tous étaient et vont toujours à beaux pieds sans lance. Partant, combien que pour mon égard pendant que j'ai été par-delà, j'ai souvent désiré que nos sauvages vissent des chevaux, encore lors plus qu'auparavant souhaiterais-je d'en avoir un bon entre les jambes. Et de fait, je crois, s'ils voyaient un de nos gendarmes bien monté et armé avec la pistole au poing, faisant bondir et passader son cheval, qu'en voyant sortir le feu d'un côté et la furie de l'homme et du cheval de l'autre, ils penseraient de prime face que ce fut Aignan, c'est-à-dire le diable en leur langage. Toutefois, à ce propos, quelqu'un a écrit une chose notable. C'est que, combien qu'Atahualpa, ce grand roi du Pérou qui de notre temps fut subjugué par François Pizarre, n'eût jamais vu de chevaux auparavant, tant y a quoi que le capitaine espagnol, qui premier l'alla trouver, fit par gentillesse et pour donner ébahissement aux Indiens toujours voltiger le sien, jusqu'à ce qu'il fût prêt la personne d'Atahualpa, il fut si assuré qu'encore qu'il ne sautât un peu d'écume du cheval sur son village, il ne montra aucun signe de changement, mais fit commandement de tuer ceux qui s'en étaient fuis devant le cheval, chose, dit l'historien, qui fit étonner les siens et émerveiller les nôtres. Ainsi, pour reprendre mon propos, si vous demandez maintenant, et toi et ton compagnon, que faisiez-vous durant cette escarmouche? Ne combattiez-vous pas avec les sauvages? Je réponds, pour n'en rien déguiser, qu'en nous contentant d'avoir fait cette première folie, de nous être ainsi hasardés avec ces barbares, que nous tenant à l'arrière-garde, nous avions seulement le passe-temps de juger des coups. Sur quoi cependant je dirais qu'encore que j'ai souvent vu de la gendarmerie, tant de pied que de cheval, en ces pays par-deçà, que néanmoins je n'ai jamais eu tant de contentement dans mon esprit de voir les compagnies de gens de pied, avec leurs morions dorés et armes luisantes, que j'eus, lors de plaisir, à voir combattre ces sauvages. Car outre le passe-temps qu'il y avait de les voir sauter, siffler, et si dextrement et diligemment manier en rond et en passade, encore faisaient-ils merveilleusement bon voir, non seulement tant de flèches avec leurs grandes empennes de plumes rouges, bleues, vertes, incarnates et d'autres couleurs, voler en l'air parmi les rayons du soleil qui les faisaient étinceler, mais aussi tant de robes, bonnets, bracelets et autres bagages faits aussi de ces plumes naturelles et naïves dont les sauvages étaient vêtus. Or, après que cette escarmouche eût duré environ 3 heures et que d'une part et d'autre il y en eut beaucoup de blessés et de demeurés sur la place, nos Touyoupinambous ayant finalement eu la victoire, prirent plus de 30 hommes et femmes Margaïa prisonniers, lesquels ils emmenèrent en leur pays. Partant, encore que nous deux Français n'eussions fait autre chose, sinon, comme j'ai dit, qu'en tenant nos épées nues en la main et tirant quelques coups de pistolet en l'air pour donner courage à nos gens, si est-ce toutefois que ne leur pouvant faire plus grand plaisir que d'aller à la guerre avec eux, qu'ils ne laissaient pas de tellement nous estimer pour cela, que du depuis les vieillards des villages où nous fréquentions, nous en ont toujours mieux aimé. Les prisonniers, donc, mis au milieu et près de ceux qui les avaient pris, voire aucun homme des plus forts et robustes, pour s'en mieux assurer, liés et garrottés, nous nous en retournions contre notre rivière de Genèvre, aux environs de laquelle habitaient nos sauvages. Mais encore parce que nous en étions à 12 ou 15 lieues loin, ne demandez pas si, en passant par les villages de nos alliés, venant au-devant de nous, dansant, sautant et claquant des mains, ils nous caressaient et applaudissaient. Pour conclusion, quand nous fûmes arrivés à l'endroit de notre île, mon compagnon et moi, nous fîmes passer dans une barque en notre fort, et les sauvages s'en allèrent en terre ferme, chacun dans son village. Cependant, quelques jours après qu'aucun de nos Touyoupinambous, qui avait de ces prisonniers en leur maison, nous vinrent voir en notre fort, priés et sollicités qu'ils furent par les truchements que nous aurions d'en vendre à vil gagnon, il y en eut une partie qui fut par nous rescousse d'entre leurs mains. Toutefois, ainsi que je connus en achetant une femme et un sien petit garçon qui n'avait pas 2 ans, lesquels me coûtèrent pour environ 3 francs de marchandise, c'était assez malgré eux. Car, disait celui qui me les vendit, je ne sais dorénavant que s'en fera, car depuis que Païcolas, entendant Villegagnon, est venu par-deçà, nous ne mangeons pas la moitié de nos ennemis. Je pensais bien garder le petit garçon pour moi, mais outre que Villegagnon, en me faisant rendre ma marchandise, voulut tout avoir pour lui, encore y avait-il que quand je disais à la mère que lorsque je repasserais la mer, je l'emmènerais par-deçà, elle répondait, tant cette nation a la vengeance enracinée en son cœur, qu'à cause de l'espérance qu'elle avait qu'étant devenu grand, il pourrait échapper et se retirer avec les margaillas pour les venger, qu'elle eût mieux aimé qu'il eût été mangé des touyoupinambous que de l'éloigner si loin d'elle. Néanmoins, comme j'ai dit ailleurs, environ 4 mois après que nous fûmes arrivés en ce pays-là, d'entre 40 ou 50 esclaves qui travaillaient en notre fort, que nous avions aussi acheté des sauvages nos alliés, nous choisîmes 10 jeunes garçons, lesquels, dans des navires qui revinrent, nous envoyâmes en France au roi Henri II, lors régnant.